Good Morning Business, face à le Chypre.
Face à le Chypre ce matin, il y a Jean-Marc, Daniel. Messieurs, vous avez écouté avec attention l'audition de Kevin Warsh sur le chemin de la Fed. Est-ce que c'est l'homme providentiel? Est-ce que c'est l'homme qui va pouvoir remplir les missions de la Réserve fédérale? Emmanuel.
Bah, il avait une mission difficile, hein, qui était d'essayer de tenir une ligne de crête, à la fois pour ne pas effrayer, mais pour ne pas ennuyer non plus. Il fallait que il montre que il était le tenant d'une ligne du changement, mais pas une continuité tranquille non plus. Moi, j'ai bien aimé plusieurs de ces remarques que j'ai trouvées plutôt rassurantes. D'abord, il a montré une ligne assez dure sur la lutte contre l'inflation, mais attention, en insistant bien sur un point qui est, attendez, l'inflation, c'est pas que ma responsabilité à moi, Réserve fédérale, c'est aussi la responsabilité du gouvernement et de sa politique budgétaire. Et là, j'ai trouvé qu'il abordait un sujet qui est majeur. Vous savez, c'est ce fameux sujet de la dominance fiscale qui consiste à dire, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans un régime où l'État est extrêmement endetté, le poids de la dette est tellement important et le coût de la dette et donc des taux d'intérêt est tellement important que finalement, c'est l'État qui tient dans sa main la Banque centrale et pas la Banque centrale qui tient dans sa main l'État. Donc cette balle renvoyée dans le camp du gouvernement, je l'ai trouvée assez intéressante. J'ai trouvé assez intéressante aussi la critique implicite qu'il a fait de la Fed actuelle sur finalement sa lenteur de réaction en 2021-2022 au moment de la crise, avec ensuite compensé par un resserrement brutal, un peu comme en Europe d'ailleurs. Et là, ce qu'il critique, c'est ces stratégies de politique monétaire qui se veulent extrêmement mécaniques, extrêmement préventives, où on annonce très à l'avance. Moi, j'ai senti qu'il y avait un désir de revenir à une Fed un peu moins prévisible pour reprendre peut-être, sans doute, un peu la main. Et ce qui veut dire aussi peut-être, et ça, c'est le grand espoir. Alors, c'était un peu entre les lignes, mais j'ai trouvé ça prometteur, sur aussi une sensibilité très forte à la stabilité financière. C'est-à-dire que quand on s'interroge sur l'indépendance de la Fed aujourd'hui, on peut dire, mais attendez, elle est peut-être indépendante du gouvernement, il y a débat, mais elle est plus du tout indépendante des marchés financiers qui ont pris la main. Et là, il y a cette idée peut-être, en voulant être moins prévisible, de reprendre la main sur les marchés financiers. Et ça m'a plutôt paru aussi positif. Donc, une prestation plutôt habile et prometteuse.
Jean-Marc, Daniel, vous en avez pensé quoi?
Non, dans le jugement que vient de faire Emmanuel, je pense que le mot important, c'est ennuyeux. Je pense qu'il a été assez convenu, assez ennuyeux. Et dans son diagnostic aussi, je pense que le grand enjeu, effectivement, c'est les rapports avec l'État. Alors, derrière le mot d'indépendance, il y a cette idée que, effectivement, la politique monétaire est efficace et légitime cette institution, qui est un monopole, donc qui n'est pas soumis à une contrainte liée à la concurrence, doit échapper, effectivement, aux aléas politiques et conserver une forme de l'autorité liée à son indépendance. Mais je pense qu'il est passé à côté d'un débat qui a lieu en ce moment parmi les économistes, notamment aux États-Unis, sur à quoi sert la banque centrale. C'est-à-dire que je rappelle que les banques centrales n'ont jamais été définitivement employé dans un objectif très précis. Une banque centrale du 19e siècle, il n'y avait pas le mot inflation dans les statuts d'une banque centrale du 19e siècle. Une banque centrale du 19e siècle n'avait pas un objectif d'assurer l'emploi. Une banque centrale du 19e siècle, elle était là pour financer la dette publique ou privée. Et donc, je pense qu'il faut en revenir au débat qui a eu lieu en 1978. En 1978, quand on a donné le statut actuel de la Banque centrale, il y a un papier très intéressant de Samuelson qui dit, dedans il y a la messe, c'est-à-dire l'inflation, le plein emploi, il dit tout ça, ça n'a pas de sens, ne serait-ce que parce que dire qu'on va à la fois lutter contre l'inflation et assurer le plein emploi, c'est contraire à l'arbitrage de Philips, et en économie, il y a un arbitrage de Philips plus ou moins affirmé, mais il y a toujours un arbitrage de Philips. Et donc, le véritable enjeu, c'est le point 3 qui est donné au statut actuel, c'est faire en sorte qu'il y ait des taux d'intérêt les plus bas d'ici Milson pour permettre à l'État de s'endetter sans qu'il y ait des conséquences négatives sur le futur avec des taux d'intérêt très élevés. Et Samuelson rebondit 10 ans après quand il fait le bilan de Reagan en disant la pire politique que nous avons de voir, c'est des taux d'intérêt très élevés qui massacrent l'économie et la seule capacité qu'a l'État de réagir à ça, c'est de faire du déficit pour éviter que la récession soit trop profonde. Et donc on est dans une espèce de cycle particulièrement négatif où on a des taux d'intérêt très élevés et un déficit budgétaire très important. Mmh. Et donc, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est ça. Et Samuelson dit, la seule façon d'y parvenir, c'est qu'il y ait une règle du jeu claire sur la façon dont l'État et la Banque centrale s'articulent autour de la gestion du déficit budgétaire. Et je pense que maintenant, dans la situation dans laquelle on est, vu l'état de déficit budgétaire aux États-Unis, le véritable enjeu, c'est de dire je serai indépendant, c'est-à-dire je ne laisserai pas financer tout, n'importe quoi, mais d'un autre côté, je ne vais pas assassiner l'économie américaine avec des taux d'intérêt très élevés et avec une dette publique dont la charge d'intérêt devient ingérable.
Il faut juste rappeler,
très vite, le mot de la fin.
Juste rappeler, Jean-Marc, qu'effectivement, ces choix qui paraissent des choix théoriques, etc., sont en fait très ancrés dans une réalité économique de leur époque. Et il faut rappeler que la Fed des années 70, c'est une Fed, la Fed d'Arthur Burns, qui a cédé finalement au pouvoir politique, qui a cédé à Nixon et qui a laissé filer l'inflation et qui ne s'est pas battu contre l'inflation. D'où sans doute cette hypersensibilité à vouloir maintenir l'inflation. Je vous cite Arthur Burns qui a reconnu plus tard que la Fed avait échoué à faire ce qu'elle aurait dû faire.
Merci, messieurs.